Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Ah oui.
Les droits de l'emploi, tout de suite, avec Christine Dieff de Risbourg. Mais juste avant, c'est la météo avec Rémi André. Voilà, Rémi André qui est avec nous. Bonsoir Rémi.
Bonsoir Philippe, bonsoir.
Bonsoir à vous. Avant de retrouver les voies de l'emploi, mon cher Rémi, le temps est perturbé.
Oui, effectivement, un petit peu perturbé le temps. Il le sera encore demain, malgré la douceur, avec donc ces perturbations, ces vagues pluvieuses qui vont circuler à nouveau sur la moitié nord, notamment le matin entre la Bretagne, le bassin parisien, les Ardennes, de la pluie se déplaçant dans l'après-midi vers le Massif central et l'Alsace. Des pluies parfois soutenues d'ailleurs avant le soir. Le vent lui sera de la partie également. Le temps restera tout de même plus calme sur la moitié sud, mais là avec un ciel couvert et quelques gouttes par-ci par-là sur le sud-ouest ou près de la Méditerranée. Et puis, dans la soirée, les averses vont commencer à se transformer en giboulée vers la Manche. Là, ce sera le début du refroidissement qui va s'opérer, car on va vers le refroidissement en fin de semaine. En attendant, demain, il fera encore bien doux, 12 à 16 degrés en général, et on pourrait même encore atteindre les 18 à 20 degrés sur le sud de l'Aquitaine.
Merci mon cher Rémi, à tout à l'heure. Les voix de l'emploi sur Sud Radio, c'est parti avec Christine Bier et Yves de Risbourg qui sont là. Bonsoir Christine, comment allez-vous ma chère Christine?
Très bien, merci.
Bah, très bien, pareil pour Yves.
Il se prépare, il est prêt.
Et ben voilà, en pleine forme et les rubriques habituelles des voix de l'emploi, vous connaissez maintenant sur Sud Radio comme chaque mardi. On vous rappellera 0826 300 300 pour participer à l'émission et la fameuse boîte à job où on vous proposera des offres d'emploi. 0826 300 300, Christine Bier, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi. On se retrouve dans quelques minutes, à tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Bier, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi.
19h passé de 7 minutes sur Sud Radio. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Christine Bier.
Bonsoir Yves de Risbourg.
C'est parti pour les voies de l'emploi avec bien entendu vous qui nous écoutez, qui avez envie de poser des questions sur ce que vous êtes en train de peut-être de préparer au niveau de votre nouveau job, au niveau peut-être de vos études, de vos offres d'emploi bien entendu. Puis aussi à tous les étudiants qu'on salue parce qu'ils sont nombreux à être à la recherche d'alternance, de jobs divers. Mais c'est vrai que pour les saisonniers, ça va être un peu compliqué cette année. Enfin bref, le standard c'est pour vous, c'est 0826 300 300. Et puis bien entendu, comme dans toutes les voies de l'emploi, nous avons un invité que je vous laisse le soin de présenter, Christine.
Oui, merci Yves. Alors justement, profitons-en si vous avez envie de vous recycler ce soir, Yves. C'est l'occasion, puisqu'on a la chance d'avoir comme invité ce soir le directeur des ressources humaines du groupe PAPREC, monsieur Stéphane Gérard. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Christine, bonsoir Yves.
Bonsoir. Vous avez vu le jeu de mots sur le recyclage, elle est formidable.
Oui, elle était pas attendue.
Incroyable.
Alors vous allez subir le test du début de l'émission, Stéphane Gérard, puisque ce n'est pas votre CV dont on va parler, mais plutôt celui de l'entreprise, c'est ça?
Oui, absolument. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que vous nous racontiez un petit peu le parcours de l'entreprise PAPREC, parce qu'on pourrait même dire que c'est un joli conte de Noël qui a démarré quand même en 1994 après le rachat d'une PME. C'est ça, Stéphane?
Absolument. En 1994, Jean-Luc Petit-Huguenin quitte la Générale des Eaux, où il occupait un poste très important. Et puis, il achète cette PME de 45 salariés à La Courneuve, dans le 93. Et cette entreprise, PAPREC, est devenue le groupe d'aujourd'hui, le groupe de 10 000 salariés, 200 sites en France, numéro un du recyclage.
Et au départ, cette PME, c'était quoi son activité? Parce que c'était assez artisanal, c'était en rapport avec le papier, je crois, d'ailleurs, peut-être d'où le nom
PAPREC. C'était le recyclage des vieux papiers, puisqu'il s'agissait à l'époque de récupérer les papiers des imprimeurs, les déchets de production, on pourrait dire, et puis de les trier pour pouvoir les recycler et fabriquer à nouveau du papier avec cette matière-là. Et depuis, on s'est développé dans ce secteur du papier, du carton, mais aussi... des autres matières à recycler aujourd'hui, le plastique, le bois, etc.
C'est vrai qu'à l'époque, on ne recyclait que le papier. C'est vrai qu'il y avait énormément de presse écrite. Hein, et on venait rechercher, je pense que c'était pas prêt déjà à l'époque, les invendus, donc ce que les journaux qui n'ont pas été vendus, les marchands de journaux les ramenaient. Et tout ça repartait, je crois, du côté de la chapelle d'Arblay, où il y avait une énorme usine de recyclage.
Absolument.
Et vous couvrez tous les
secteurs. Un fabricant de papier, oui.
Pardon. Voilà. Vous couvrez tous les secteurs de déchets à recycler aujourd'hui?
Oui, je pense qu'aujourd'hui, on est sur tous les segments, leader sur la plupart des matières, sur le papier bien sûr, mais aussi sur le plastique, sur le bois, et puis présent également dans d'autres secteurs comme la ferraille, les déchets électroniques et d'autres matières.
Alors, quand vous dites que vous recyclez, vous faites aussi de la récolte? Parce que moi, je suis souvent derrière des énormes camions marqués PAPREC. Donc, vous faites vraiment le recyclage du moment où vous récoltez les déchets jusqu'à leur recyclage. Comment ça se passe?
Ouais, aujourd'hui, on est vraiment sur les différents métiers. Donc, de la collecte, ce qu'on appelle la collecte en porte-à-porte, c'est-à-dire le camion, la benne à ordures ménagère, finalement, qui passe devant chez vous, récupérer vos poubelles, jusque la production de matières plastiques recyclées prêtes à la production pour les industriels. Donc, on est vraiment sur toute la chaîne de recyclage du déchet, sur l'ensemble des segments aujourd'hui.
Stéphane Gérard, vous allez rester avec nous tout au long de cette émission. Vous allez pouvoir rebondir sur les différentes rubriques. Et bien entendu, aux éditeurs qui nous posent des questions, 0826 300 300 à propos de l'emploi. Et ce sera le cas dans cette première rubrique.
Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera.
On vous rappellera, aujourd'hui, c'est Stéphanie qui nous a laissé un message sur le répondeur de Sud Radio au 0826 300 300. On l'écoute.
Bonjour, c'est Stéphanie de Montpellier. Je bosse depuis maintenant un an et je dois faire mon premier entretien annuel d'évaluation. Ça m'est encore jamais arrivé. Selon vous, comment je dois m'y préparer? Merci beaucoup pour votre réponse.
Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à Stéphanie, Christine? Parce que c'est vrai, c'est la première fois pour elle.
C'est la première fois et c'est la période, hein, parce qu'il y a Noël, il y a les cadeaux, bientôt les cartes de vœux, et paf, effectivement, l'entretien annuel d'évaluation. Alors, l'idée, la réponse, elle est un peu dans la question, il faut déjà se préparer. En fait, il y a trois points très importants. C'est un, se préparer au niveau pratique, c'est-à-dire savoir comment ça va se passer, combien de temps ça va durer, avec qui vous allez le passer, s'il y a des formulaires à remplir avant. Il faut pas se gêner, entre guillemets, pour poser des questions et savoir le dérouler, en fait, comme ça. Plus on sait le dérouler, mieux on se prépare.
Parce qu'en fait, on a souvent l'impression, quand on n'a jamais participé à un entretien annuel d'évaluation, qu'on va être noté et que la suite de la carrière peut...
Oui, justement, c'est un peu comme les entretiens de recrutement. Il faut arrêter de penser ça. Ce n'est pas un jugement. On n'est pas là pour se faire battre. Bien au contraire, c'est pour certainement des améliorations, s'il doit y en avoir. Et c'est pour ça que ça m'amène au deuxième point, qui est... de faire un peu un bilan de l'année qui s'est écoulée, avec, si on est commercial, les clients qu'on a rentrés, les projets qu'on a menés à terme, le management d'équipe, il y a beaucoup de choses. Donc, il faut faire une espèce de bilan, faire un tableau pour bien se préparer. Et puis, le point, j'allais dire, à mon avis, le plus important, c'est avoir des objectifs. C'est-à-dire se dire, je vais à cet entretien-là pour échanger, a priori, avec mon N+1, par exemple, pour lui demander une augmentation, ou une promotion, ou une prime, ou le télétravail, parce que c'est un peu d'office, là. Mais ça peut être une équipe plus importante, ça peut être... Voilà. Il faut vraiment avoir un objectif en tête. Et comme vous dites très justement, Yves, ne pas être dans le jugement, en fait. Il faut se dire, on y va dans une idée d'amélioration. Et de pas y aller tendu en disant là je vais me faire gronder, c'est pas un conseil de classe non plus.
Donc faut y décontracter, il y a pas de souci Stéphanie, allez-y décontracter et ça se passera bien.
Et préparer.
Stéphane Gérard, c'est vous qui faites passer les entretiens annuels d'évaluation de quelques-uns de vos employés chez Paprec?
Alors pour mon équipe, pour le reste, ce sont chaque manager qui sont en charge de faire passer ces entretiens. Moi le conseil que je donnerais c'est je dirais de sortir de l'exercice imposé, surtout. C'est-à-dire qu'il y a souvent le formulaire, le petit guide du parfait entretien, etc. C'est très bien de préparer, vous avez absolument raison Christine, mais vraiment il faut sortir de l'exercice imposé, du cadre, du formulaire, et puis essayer de dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter, de ce qu'on a fait de bien, de ce que peut-être on a moins bien réussi, et souvent ça va permettre d'engager un dialogue, je dirais, assez vrai, et en sortant de... La question qui est posée, c'est ça. Alors, j'essaie de répondre à la question. Souvent, ça donne un discours qui est assez vide. Et donc, je pense qu'il faut vraiment dire ce qu'on a envie de dire, tout simplement, à l'occasion de cet entretien sur l'année écoulée et puis sur les objectifs qu'on a pour la période à venir.
Mais en fait, vous êtes d'accord que quand même, plus on est préparé, plus finalement, on va être spontané parce qu'on aura la trame du discours, on sait pourquoi on vient et puis on sera peut-être plus apte, justement, à accepter une critique ou encore une fois un axe d'amélioration parce qu'on est en France et à chaque fois on dit un échec c'est une catastrophe, mais non, un échec c'est une expérience et tant qu'on en parle avec la personne concernée on peut que aller mieux après.
Voilà, on l'a rassuré Stéphanie.
Pardon, quand on a eu une difficulté à un moment donné dans l'année, le fait de l'exposer auprès de son manager, souvent il va vous trouver dur avec vous-même, il va plutôt avoir tendance à dire oui mais t'as quand même réussi ça, t'as fait ça de bien aussi et ça permet pour soi-même finalement de ressortir un peu grandi, un peu ragaillardi de cet entretien et d'en ressortir avec du positif.
Voilà, c'est aussi une manière de pouvoir avoir plus de cohésion dans une équipe, puisque on l'a bien compris, c'est au niveau d'une équipe que cela se déroule. Merci de votre témoignage, Stéphane Gérard. Et bien, on va découvrir la deuxième. Hein, vous avez encore quelque chose à rajouter ?
Non, j'allais dire, c'est un peu comme les enfants. S'il y en a un qui est mauvais en maths, on peut toujours lui dire oui, mais regarde, t'es excellent en géo.
Absolument, et en histoire. On va maintenant découvrir un nouveau métier, ou tout du moins un métier qui existe, mais qu'on ne connaît pas forcément.
Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste.
Alors là, quand j'ai vu, j'ai dit, ça y est, alors qu'est-ce qu'elle va nous faire là? Géomaticien, c'est pour ça que je parlais de géo, vous avez parlé de géographie à l'instant, mais alors le géomaticien, il matisse quoi?
Alors à votre avis, puisque c'est un peu deux mots qu'on a mis ensemble.
Il y a un peu de géomètre dans l'histoire, et puis maticien, électronicien, mise
en
forme.
Il y a un peu beaucoup de géographie surtout, ouais. Et maticien, c'est vrai que c'est plutôt mathématiques, la gestion des données, etc. Alors évidemment, ça ne porte pas le même nom dans toutes les entreprises, puisqu'il y a des entreprises où on appelle ça plutôt un ingénieur SIG, c'est-à-dire service d'information géographique. Donc en fait, c'est très simple, enfin pour nous, peut-être pas toujours pour lui, c'est quelqu'un qui va faire de la donnée une ressource en fait pour protéger l'environnement.
Voilà, en français dans le texte.
Alors, en français dans le texte, il va établir des bases de données, de cartes, d'images, de statistiques, des cartographies d'activités humaines et de risques industriels. Il va mélanger tout ça et il va en ressortir des optimisations, des simulations pour, par exemple, je vous donne un exemple très concret, il va pouvoir expliquer le trajet que doivent effectuer des camions de ramassage des ordures ménagères, par exemple.
Ah, ça c'est pour vous, Stéphane.
Voilà, c'était cadeau de Noël pour Stéphane. Mais c'est important parce qu'il est souvent dans un service qu'on appelle Upgrade, de gestion et d'analyse des données, et son rôle, en fait, va être d'optimiser des tournées de collecte. Vous voyez ?
C'est un super Waze.
Le temps, les kilomètres, je pense que Stéphane, vous devez avoir ça, peut-être sous un autre nom, dans votre entreprise, vous qui avez en plus des camions qui sont robotisés, enfin, vous êtes au top de l'innovation. Donc, j'imagine que vous avez des personnes qui ont cette fonction-là.
Absolument. Plutôt dans nos équipes informatiques. Mmh. Et puis dans certaines exploitations, lorsqu'on est en train de mettre en place un nouveau système de collecte, on vient cartographier le territoire, positionner les différents points de collecte, les zones aussi où ça sera plus difficile. Par exemple, à un endroit où un camion va devoir faire un demi-tour, une manœuvre un peu compliquée, on va pouvoir l'identifier sur une carte de manière à ce que et la collectivité, le client, puisse avoir ces informations, puis aussi nos équipages, les salariés de l'entreprise, qui puissent les identifier au fur et à mesure qu'ils font leur tournée de collecte. Ils vont pouvoir comme ça avoir bien identifié les zones où ils doivent collecter, les zones où ils doivent faire attention. C'est très utile. Et puis, on a aussi des données qui remontent des objets connectés qu'on a. On a plein des bornes d'apport volontaire, par exemple, que vous pouvez trouver dans différentes communes où vous allez amener des déchets à recycler. Ces bornes, on en surveille le remplissage via ces outils d'objets connectés. Et ça remonte dans des cartographies qui sont mises en place par ces équipes de géomaticiens qu'on appelle chez nous effectivement plutôt ingénieurs système d'information géographique ou chargés d'études collectes quand ils sont en phase d'exploitation.
Donc vous arrivez donc à savoir à quel moment il faut envoyer un véhicule parce qu'on sait que effectivement le tel bac va être rempli et que là il faut y aller parce que sinon ça va plus être possible. Et puis je suppose aussi qu'il y a des données non pas géographiques mais météorologiques parce qu'il est vrai que l'hiver, surtout dans des départements de montagne où la circulation est plus compliquée, où on roule donc moins vite, tout ça est peut-être réadapté par rapport aux conditions météorologiques.
C'est le boulot de ces équipes-là de venir agréger des données de différentes natures. Donc, les routes qui vont bien sûr permettre les accès, mais aussi les conditions météo, les conditions de trafic, et puis les données vraiment d'exploitation, comme celles que j'indiquais tout à l'heure, pour, au travers de tout ça, organiser au mieux les tournées de collecte.
Bon, géomaticien, c'est un métier qu'on a découvert. C'est un métier qui m'a l'air assez passionnant quand même, parce qu'on est vraiment dans l'actu, on est dans le direct, on est dans le live, comme on dit.
C'est quand même beaucoup de choses pour réduire les impacts environnementaux. Donc,
en plus. Parce qu'effectivement, si on n'envoie qu'un seul camion au lieu de deux, ça fait effectivement, au niveau CO2, quelques avantages, quelques plus. Est-ce que c'est bien payé ?
Alors, c'est pas mal payé. On démarre plutôt à 2000 euros. Et après, suivant l'ancienneté, ça peut aller assez haut. Et après, ça dépend aussi de la formation, parce qu'on peut avoir un BTS, par exemple, de géomètre topographe. Et sinon, on peut avoir un master de système d'information géographique. Voilà. Donc, c'est un peu beaucoup l'expérience, quand même, qui prime. Mais ça peut aller jusqu'à 5000 euros.
Voilà, c'était le métier de géomaticien dont on vient de vous parler. Il est temps de retourner du côté du standard du 0826 300 300 pour retrouver notre chronique suivante.
Sud Radio, les voix de l'emploi, la bonne voix.
Ah, la bonne voix, c'est pas toujours facile à trouver. Là, c'est une maman un peu inquiète qui nous a laissé son message au 0826 300 300. C'est Véronique, on l'écoute.
Oui, bonjour Sud Radio, je suis Véronique Demeaux, j'habite en Seine-et-Marne. Mon fils a été diplômé là en septembre d'une grande école et je l'aide à chercher un job. Alors, il m'a posé une question et je sais pas trop quoi lui répondre. Il m'a dit, pourquoi est-ce que je me lancerais pas si je proposais pas mes services en auto-entrepreneur? Donc, je vous appelle parce que je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci beaucoup, au revoir.
Très bonne question Véronique, merci de nous l'avoir posée, tout du moins de l'avoir posée à Christine. C'est vrai, il y a une maman qui dit, bon bah là il va trouver un job, il va signer un CDD, un CDI ouais. Après et tout. Et là, paf, et si j'étais auto-entrepreneur?
Alors déjà on ne dit plus auto-entrepreneur, puisqu'il y a une loi qui est passée depuis 2016, on appelle ça micro-entrepreneur. En fait c'est une espèce de fusion entre auto-entrepreneur, entrepreneur, voilà. Après ça dépend, vous savez, d'un chiffre d'affaires. Alors moi je vais peut-être m'attirer des foudres de beaucoup de gens, mais je dirais c'est une excellente idée. Alors pourquoi ? Parce que, encore plus en ce moment, le télétravail, le confinement, il y a des entreprises, il faut le dire, qui ont un peu plus de mal à embaucher en CDI directement des jeunes qui sont un petit peu inexpérimentés, même s'ils ont des diplômes.
Donc c'est assez difficile de les encadrer au départ, oui, de leur mettre un tuteur,
oui,
etc.
Oui, parce voilà, que bon, c'est compliqué. En plus, à distance. Donc c'est une très très bonne idée. Pourquoi ? Parce que vous allez gagner en fait en compétences et vous allez engranger de l'expérience. Vous allez pouvoir proposer vos services à des clients très différents. Donc, vous aurez plusieurs clients, ce qui peut amener à un moment donné, au cours d'une mission, à un recrutement en CDI. Donc, ça, c'est quand même très, très bien. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose auquel on pense pas toujours, c'est qu'on va faire ses armes et au moins, on va être sûr que le métier qu'on a envie de faire va nous plaire. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'univers où on peut être micro-entrepreneur, hein, graphiste, photographe, rédacteur, commercial, voilà.
Après, programmeur,
oui.
Alors, comptable.
Comptable, non mais il y a énormément
PME,
de métiers.
PME, TPE qui en ce moment ont réduit leurs équipes et qui sont quand même obligés de faire leur bilan en ce moment, pour ceux qui sont en année calendaire,
exactement,
pour faire les factures,
exactement.
Etc.
Exactement, donc ça permet quand même de muscler son CV, ça permet de créer aussi un réseau ou d'étoffer un réseau. Après, on ne demande pas de rester des années, mais c'est vrai qu'en tout cas, on cette période, plutôt que de rien faire et d'attendre le CDI, et encore que c'est pas CDI pour la vie, c'est une excellente expérience.
Stéphane Gérard, chez Paprec, est-ce que vous avez recours à des micro-entrepreneurs pour des tâches très spécifiques ?
Ah, plutôt par exception quand même, on embauche beaucoup nous, donc c'est plutôt par exception qu'on a recours à ce type de fonction, mais on a pu le faire dans des fonctions plutôt communication, événementielle. Vous parliez de graphiste aussi. Voilà, c'est des métiers sur lesquels, pour des missions ponctuelles bien identifiées, on est capable comme ça de s'appuyer sur un prestataire et en l'occurrence un auto-entrepreneur ou un micro-entrepreneur comme on dit aujourd'hui.
C'est pas si compliqué que ça, d'ailleurs, que de monter sa structure de micro-entrepreneur.
Alors, c'est très simple. Hein. C'est vraiment, aujourd'hui, en trois clics, vous pouvez avoir tout ce qu'il faut. Après, oui, alors pour ça, je dis, on reste pas trop longtemps, parce qu'il y a un peu d'inconvénients sur les protections sociales, sur le chômage, etc. Mais pour démarrer, c'est formidable. Et aujourd'hui, il y a énormément de sites pour les micro-entrepreneurs, suivant les univers dans lesquels ils souhaitent travailler, qui permettent de les mettre, en plus, en contact avec des grands groupes. Donc, à un moment donné, hein, on rentre par une petite porte et puis le monde s'ouvre.
Quand vous m'avez traité de ringard tout à l'heure en disant que auto-entrepreneur, ça faisait plus de 4 ans qu'on n'utilisait plus l'expression, je me souviens qu'à l'époque, le chiffre d'affaires était limité. Parce que c'était...
Oui, alors c'est le cas encore. C'est pour ça qu'on appelle ça micro-entrepreneur.
À l'époque, c'était grosso modo 30 000 euros par
an. Là, on est à peu près à 37 000.
Voilà. Et puis je crois qu'il y a aussi une autre phase où on peut passer un peu plus haut,
oui,
sans encore passer à la SARL.
Exactement. Et puis on est exonéré, alors après suivant l'âge, etc., mais on est exonéré de charges pendant un an.
Voilà, donc ça permet de bien démarrer son activité et surtout d'acheter du matériel. Parce que c'est vrai que lorsque vous achetez un ordinateur quand vous êtes en micro-entreprise, bah, vous ne le payez pas 1500 euros.
Exactement.
Vous le payez 1200 parce que vous récupérez la TVA. Donc il y a aussi tout ça, vous avez des frais pour vous déplacer. C'est encore la TVA qui va sauter, les frais de transport, votre essence, votre voiture même peut-être, ou votre scooter. Donc ça a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Eh bien écoutez, c'est formidable, donc on peut rassurer Véronique, si votre fils, d'ailleurs
oui,
vous ne nous avez pas dit ce qu'il faisait d'ailleurs, comme ce qu'il avait fait comme étude, mais si vous pensez en nous écoutant que ça peut convenir effectivement à son métier qu'il a envie de faire, bah, de démarrer comme micro-entrepreneur, ce n'est pas une mauvaise solution, loin de là.
Surtout en ce moment.
Donc soyez rassurés Véronique. On va maintenant, si vous voulez bien, aller plonger déjà, vous rendez compte, dans la boîte à job.
Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job.
Alors, dans la boîte à job, cette fois-ci, c'est pas un camion qui a amené
C'est une hotte.
C'est une hotte, c'est la hotte de Noël. Voilà.
De la mère Noël.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans la hotte de la mère Noël, Christine Biais, au niveau des offres d'emploi?
Alors, j'ai un très beau poste parce qu'on dit, ah, la communication, l'événementiel, on recrute pas. Eh bien, si, on recrute justement pour préparer notamment la nouvelle année. On cherche un chef de projet communication pour Paris 19e, pour le Palais de la Découverte et la Cité des Sciences.
Ça, c'est sympa.
Ça, c'est sympa. Donc, vous êtes au sein de la direction du développement des publics et de la communication. Et donc, il faut développer des actions de communication on et offline, faire des stratégies, lancer des projets. Vous pouvez retrouver ce poste sur Indeed et la rémunération est tout de même de 3 500 euros.
Et on demande quelque chose de particulier au niveau des études?
Oui, on demande un diplôme communication ou marketing.
Voilà. Donc, il suffit d'aller sur le site de la Cité des Sciences?
Absolument.
Parfait. Autre petite offre d'emploi, enfin quand je dis petite, c'est pas du tout péjoratif.
Pourquoi petite
hein. Non, énorme offre d'emploi.
Énorme. Oui, c'est pour ONG Conseil à Bordeaux qui cherche ce qu'on appelle des fundraisers. Oui, oui. Brian. Donc c'est le leader en France du fundraising en face-à-face, donc collecte de fonds, pour les associations, les ONG et les projets d'intérêt général. Donc l'idée, vous connaissez, vous avez dû en croiser, vous êtes en équipe, vous allez à la rencontre des passants, bonjour, bonjour, n'ayez pas peur, vous avez 5 minutes, arrêtez-vous, non, je peux pas, voilà. Mais tout ça en équipe et... La rémunération est quand même, parce que beaucoup de gens doivent penser que c'est rien du tout et qu'on marche toute la journée.
Et puis même certaines personnes pensent que c'est un peu des arnaques, parce que on n'aime pas trop se faire héler dans la rue pour répondre à un questionnaire.
Non,
en
non,
plus
là,
on est pressé.
C'est pour des ONG extrêmement connues qui ont pignon sur rue.
Ils ont le badge, tout ça.
Oui, ils partent pas avec votre sac à main. Hein.
Non.
Et la rémunération en CDI est quand même de 2800 euros. Et je précise en CDI parce qu'on pense toujours que ce sont des postes payés à l'heure.
Oui, on pense que c'était des tucs, comme on le sait.
Alors, il y a aussi, ah bah, décidément, à l'époque, donc il y a aussi rémunération à l'heure qui est de 16 euros, mais on peut aussi avoir un CDI.
Intéressant.
Voilà.
Et ça, on retrouve ça sur le site de...
Indeed, encore.
Encore. Une
encore.
Autre petite offre d'emploi.
Oui, chez Thales, à Nantes, on cherche un chargé de recrutement. Donc vous voyez que ça recrute même des chargés de recrutement.
C'est bon signe.
Oui, c'est bon signe. Donc c'est système d'information et de communication sécurisé et interopérable pour les forces armées, les forces de sécurité et les opérateurs.
Oui, Thales équipe l'avionique, comme on l'a dit,
voilà,
des avions de l'armée de l'air et des navires de la marine nationale,
absolument.
Entre autres. Et les véhicules légers de l'armée de terre.
Donc la formation, il faut une première expérience en recrutement de profils informatiques. Voilà, et ça, on peut retrouver ça sur le site de Thales ou sur Glassdoor.
On va se tourner vers Stéphane Gérard du côté de chez Paprec, ça embauche en ce moment.
Oui, ça embauche. Ça embauche beaucoup dans plein de métiers différents et partout en France, puisqu'on est vraiment présent sur tout le territoire. Ça embauche beaucoup dans la maintenance chez nous. Mmh. On a beaucoup de besoins en maintenance industrielle, donc des électromécaniciens pour nos chaînes de tri. Un peu partout en France. Vous avez parlé de Bordeaux, de Nantes dans vos offres précédentes. C'est le cas aussi pour nous. À Lyon, à Tours, à Clermont-Ferrand, à Nice. Voilà, beaucoup d'endroits dans la maintenance industrielle. Dans la mécanique aussi, plutôt pour côté des engins, des poids lourds, des grues, des véhicules légers aussi. Donc là, on a aussi beaucoup de besoins un peu partout en France. Et puis, des chauffeurs. Vous avez parlé des camions que vous avez croisés sur la route. Ben, on cherche des chauffeurs encore. Notamment en Île-de-France, on a des besoins importants, chauffeurs poids lourds ou super lourds, voilà, des commerciaux, des chefs d'équipe d'exploitation, vraiment beaucoup de postes à pourvoir qu'on peut retrouver sur notre site internet, paprec.com et dans la rubrique carrière, voilà, tous les postes à pourvoir que vous pouvez rechercher par région ou par type de poste.
Quand je vous écoute, Stéphane Gérard, ça veut dire que vous avez plusieurs centaines de postes à pourvoir.
Bah, je dirais qu'on a en permanence une centaine de postes à pourvoir et on recrute 1000 personnes par an.
1000 personnes par an.
Eh bien, écoutez,
ah bah là, c'est le cadeau de Noël.
Pour ceux qui se plaignent, c'est le cadeau de Noël.
Voilà, c'est Noël.
Merci Stéphane Gérard d'avoir été avec nous en direct dans ces Voix de l'Emploi de ce 22 décembre. On vous souhaite de très bonnes fêtes à vous, à tous ceux qui nous écoutent. Et on se retrouvera de toute façon avant le jour de l'an.
La semaine prochaine.
Nous serons là. Merci Christine Biais.
Merci.
À mardi prochain.
Et merci à vous Christine Biais, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi. Tiens, dans un instant, vous retrouvez Stéphane Soumier, ses invités. C'est Xavier Starkloff ce soir, cofondateur de Joco. Et puis l'économiste Joël Toledano et son livre GAFA, reprenons le pouvoir. Stéphane Soumier sur Sud Radio dans quelques instants.